Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La France est en guerre contre les islamistes au Mali. Vous entendrez le secrétaire de la conférence épiscopale. Il indique que la population malienne est fortement réconfortée, mais elle craint la réaction des djihadistes. L'Église, quant à elle, cherche à aider les évacués. C'est la une de ce magazine. Dans cette émission, nous irons également en Syrie, en Terre Sainte. Nous verrons que les croyants allemands soutiennent le modèle européen voulu par les pères fondateurs et que 300 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Nous commençons donc cette émission par l'intervention française au Mali qui occupe la une de l'actualité. Une intervention saluée par la quasi-totalité de la classe politique française, sévèrement critiquée au contraire dans d'autres pays comme l'Algérie. La France a frappé les bastions des islamistes qui sont repassés à l'offensive et ont menacé à leur tour de frapper la France au cœur. Nous avons contacté sur place le secrétaire de la conférence épiscopale malienne, le père Edmond Dembélé. Selon lui, la population malienne appelait de ses voeux une intervention française, alors que le monde entier prenait conscience de la brutalité et du fanatisme des djihadistes. Mais elle ne l'entrevoyait pas forcément de cette façon. On l'écoute.
L'intervention militaire française qui a lieu actuellement au nord du Mali était espérée de la population, mais elle n'était pas attendue sous la forme où on la voit aujourd'hui. Parce que nous savons que la France avait dit depuis le début qu'elle n'interviendrait pas directement militairement au nord, mais qu'elle pourrait apporter un appui logistique et un renseignement également donc à l'armée malienne et à celle de la CEDEAO qui était prévue pour venir intervenir. Donc on ne l'attendait pas sous la forme où elle se présente aujourd'hui, mais elle était quand même espérée par la population depuis longtemps. Parce que nous savons tous que depuis le déclenchement des hostilités au cours de la semaine dernière, l'armée malienne risquait encore d'être défaite, ou en tout cas les impressions que nous avons eues dans les premières heures de combat nous ont fait croire que l'armée malienne avait reculé. Et donc cette situation avait fait craindre le pire à la population, qui a finalement donc accueilli avec beaucoup de soulagement l'intervention de l'armée française.
L'Église du Mali est impliquée dans l'aide et l'assistance aux populations, ce depuis le début du conflit. Au vu de la situation actuelle, est-ce que vous pensez accentuer cette aide, notamment envers les personnes réfugiées qui arrivent du Nord?
Oui, c'est sûr que des structures sont déjà opérationnel dans ce domaine. Je sais qu'au niveau de Bamako, il y a un des centres catholiques, notamment le centre de Niamana, qui accueille de nombreux déplacés depuis les mois de mars et avril dernier. Et ce centre compte aujourd'hui au moins 200 déplacés qui sont là et qui vivent avec leur famille. Et nous avons aussi d'autres structures au niveau des autres diocèses qui accueillent de nombreux déplacés, qui leur offrent logement et nourriture. Donc c'est sûr qu'avec la tournure prise par les événements et ces derniers jours, l'Église va certainement accentuer son aide à ces populations qui souffrent beaucoup déjà. Maintenant, les évêques certainement vont avoir une rencontre la semaine prochaine et ils pourront déterminer la nature de cette aide, voir aussi quels sont les moyens qu'il faut déployer pour pouvoir accueillir plus favorablement ces déplacés.
Est-ce que vous êtes confiant dans l'évolution de la situation?
Bon, nous sommes confiants. C'est vrai que on n'aurait pas souhaité qu'il y ait le conflit tel qu'il se déroule aujourd'hui. Nous pensons quand même que dans les semaines à venir, une solution va être rapidement trouvée pour que la crise ne perdure pas trop, parce que plus la crise durera, plus les populations vont souffrir davantage. Et donc, nous espérons en tout cas qu'une solution sera rapidement trouvée pour mettre fin à la crise et que les populations puissent vivre de façon un peu plus tranquille. Donc, en tout cas, nous sommes confiants pour la résolution du conflit dans un avenir très proche.
Le secrétaire de la conférence épiscopale du Mali, interrogé par Manuela à Fidji. En Tunisie, le mausolée du saint Sidi Bou Saïd, adossé à la mosquée principale du village et datant du XIIIe siècle, a été ravagé par un incendie. De nombreux mausolées dédiés à des saints musulmans ont été incendiés ou saccagés ces derniers mois en Tunisie. Des actes attribués aux salafistes, la mouvance rigoriste radicale de l'islam sunnite, qui considère comme impie d'honorer des saints. Des voix s'élèvent pour arrêter ce fléau. De Tombouctou à Alep, en passant par Tunis, c'est tout le patrimoine arabo-musulman qui est en danger. Le courant radical, qui représente entre 3000 et 10 000 personnes en Tunisie, est aussi accusé d'avoir organisé une série d'actions violentes depuis la révolution, il y a 2 ans. Malgré tout, l'administrateur apostolique de Tunis estime que le printemps arabe a des retombées positives. Avant, les Arabes avaient peur de leurs gouvernants. Aujourd'hui, ce sont les gouvernants qui ont peur de leur population. Monseigneur Maroun Eliaslam avertit cependant les islamistes au pouvoir. Les gens veulent du travail et aspirent au développement. Il ne suffit pas d'ouvrir des mosquées pour gouverner un pays. Il faut un programme politique et surtout des mesures économiques urgentes. Et en Syrie, environ 1000 chrétiens, grecs, orthodoxes et catholiques latins sont pris au piège dans le petit village chrétien de Yacoubié au nord d'Alep. Pris au milieu d'intenses combats entre les forces loyalistes et des groupes d'opposition, ils sont dans l'impossibilité de quitter le village. Le père François Koussefi, curé de la paroisse Saint-François à Amra, près de Beyrouth, qui s'occupe de près de 500 réfugiés syriens, cherche par tous les moyens à leur faire parvenir de l'aide.
Ça fait quelque temps qu'ils sont bloqués là-bas, bloqués dans leur maison. Ils ne peuvent pas aller travailler, ils ont des jardins, ils ne peuvent pas les cultiver. Et il y avait des contacts jusqu'à presque 3 semaines avant Noël. Maintenant, depuis Noël jusqu'à maintenant, il n'y a pas de contact. Donc, nous sommes en train de voir comment faire pour les aider. Soit pour leur envoyer quelques aides ou quelques aliments, ou ce qu'ils ont besoin, c'est tout.
Et vous vous occupez également de centaines de réfugiés qui viennent de toute la Syrie.
De Alep, de Hasaké, ils sont en train de venir ici surtout pour travailler. Et puis, il y a d'autres parmi eux qui attendent leur visa pour quitter le pays. Il y a beaucoup de chrétiens qui quittent parce que la situation est un peu difficile. Pas seulement pour les chrétiens, mais pour les autres.
C'était le père François Koussefi, curé de la paroisse Saint-François à Amra. Et la situation n'est guère réjouissante non plus pour les chrétiens en Israël et Palestine. Les évêques de la coordination de Terre Sainte, qui étaient en visite dans la région ces jours derniers, ne cachent pas leurs préoccupations. Notre envoyé sur place a recueilli le sentiment d'un des membres de la délégation, Mgr Pierre Burcher, évêque de Reykjavik en Islande.
À l'université de Bethléem, nous avons eu contact avec de jeunes étudiants. Et ce que disait une de ces étudiantes m'a frappé. En réalité, ils vivent de plus en plus dans une situation d'injustice. Je trouve que les problèmes ne sont malheureusement pas résolus. De nouveaux problèmes se présentent. Les problèmes non résolus sont spécialement, bien sûr, tout ce qui concerne les settlements, ces implantations juives dans les différents territoires palestiniens. Et nous avons eu l'exemple de Crémizan qui a un projet d'implantation et qui poserait d'énormes problèmes pour les communautés religieuses qui sont établies là. C'est vraiment...
Pas seulement les communautés religieuses, c'est les familles, non?
J'entends les communautés et bien sûr les familles qui vivent dans ces régions parce que c'est vraiment divisé. Le mur est un mur non pas de sécurité, mais de division. Et à mon avis, ce n'est pas comme cela qu'une juste paix va pouvoir s'établir. Tout cela est illégal. Et comment est-ce que la paix peut s'établir dans les cœurs si des réalisations de ce type continuent et augmentent même d'année en année? C'est une escalade de l'injustice, une escalade aussi, évidemment, qui génère la violence.
En faisant partie de cette coordination des évêques, vous retournez chez vous. Un des étudiants à l'université de Bethléem nous a dit de porter la vérité avec nous. Ça vous a frappé?
Ça m'a frappé également ce témoignage de ces jeunes qui, en fait, sont très contents de pouvoir s'exprimer. Et c'est une expérience que j'ai faite non seulement cette année, mais aussi ces années dernières. C'est de voir combien les chrétiens que nous rencontrons ici sont heureux de pouvoir nous rencontrer pour pouvoir exprimer leur joie, mais surtout aussi leur peine et leur souffrance, et se sentir de ce fait-là un peu moins seul. Parce que souvent, dans nos pays européens en particulier, il manque l'information objective concernant les chrétiens en Palestine et en Israël. ces jeunes nous disaient qu'ils avaient expérimenté que leurs copains, leurs camarades, n'avaient absolument aucune idée qu'il existait des chrétiens en Palestine. Ce sont évidemment des communautés minoritaires, mais nous avons vraiment à les soutenir. Et déjà le pape Paul VI disait qu'il faut éviter que la Terre Sainte devienne un musée.
Il est venu en Terre Sainte en 64, non ?
Oui, et pour lui, c'était effectivement déjà une vision qui s'annonçait. Tout ce que nous pouvons faire pour les encourager à non seulement à demeurer passivement dans leur pays, mais de pouvoir s'épanouir dans leur propre pays et trouver la juste paix qui est absolument nécessaire pour leur vie. Et comment nous pouvons le faire ? Bien sûr, c'est par la prière, en les soutenant, mais tout spécialement aussi en venant avec nos groupes de chrétiens, en venant en pèlerinage. C'est un apport extrêmement important, aussi bien spirituel que matériel et financier, pour beaucoup de familles qui ne vivent pratiquement que des pèlerinages. Alors, bien sûr que la situation peut souvent retenir des chrétiens de venir en pèlerinage en Israël et en Terre Sainte, en Palestine, mais il faut absolument encourager au maximum, comme le demandent les évêques eux-mêmes de Terre Sainte, n'ayez pas peur de venir, nous avons besoin de vous, ne nous oubliez pas.
C'était l'évêque de Reykjavik, Mgr Pierre Burcher. En Allemagne, les croyants ont annoncé officiellement leur adhésion à la campagne « Je veux l'Europe ». Lancée au mois d'août par 11 fondations allemandes, cette campagne de communication vise à renforcer l'idée européenne qui s'est dégradée à la faveur de la crise et à envoyer un signal positif pour une Europe forte. Soutenue par de nombreuses personnalités issues du monde politique, de la culture, du sport, de l'économie, l'opération « Je veux l'Europe » souhaite mettre en valeur les réussites européennes de l'union économique et monétaire au renforcement des droits de l'homme et des droits des salariés, en passant par le maintien de la paix, la promotion de la culture et de l'éducation, ou encore la protection du climat et des consommateurs. Elle a toutefois reçu dans l'opinion publique un accueil mitigé, voire négatif. Mais les croyants, eux, veulent y croire. Xavier Sartre.
Les responsables religieux catholiques, évangéliques, juifs et musulmans constatent eux aussi que le processus d'unification de l'Europe est soumis à rude épreuve. Or, les croyants peuvent offrir leur contribution dans le domaine social, en essayant notamment de réduire les inégalités et de s'assurer que tous aient un accès aux droits sociaux. Il ne suffit pas d'avoir une monnaie unique et un moteur économique qui marche. Les gens ont besoin de perspectives d'avenir, avertissent les responsables religieux. Les communautés de foi ont le pouvoir de traverser les frontières. Elles ont donc décidé de travailler contre les forces qui sèment la division. Pour les grandes religions d'Allemagne, l'Europe, selon les pères fondateurs, est un grand projet de paix, un projet culturel et social, une communauté de valeurs dans laquelle des personnes de culture et de religions différentes devraient pouvoir cohabiter pacifiquement. Les églises chrétiennes en particulier ont déployé des efforts considérables pour la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Au cours d'une conférence de presse, le président de la conférence des évêques catholiques a estimé que si l'unité européenne a pu se forger, c'est parce que le vieux continent possède les bases de la solidarité. Pour lui, l'Europe a un fondement biblique et chrétien, car ses valeurs sont celles de la dignité humaine, de la liberté, de la solidarité et de la justice.
Toujours en Europe, l'Église autrichienne est sur le chemin de la guérison. En 2012, elle a connu une baisse significative des sorties d'église par rapport à l'année précédente, soit un recul de 11%. Elles sont même inférieures à celles de 2009. Les sorties d'église ont été notamment provoquées par les révélations d'abus sexuels commis par des membres du clergé. Pour la Conférence des évêques catholiques, ce changement de tendance est un signe positif qui prouve que l'Église peut retrouver la confiance et la crédibilité perdues. Il prouve aussi que les mesures prises pour lutter contre les abus sont efficaces et que la population l'a bien compris. Dans une interview à l'agence de presse catholique 4 Press, le cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne, a reconnu que chaque départ était douloureux, mais l'Autriche reste, selon lui, un pays imprégné par la foi chrétienne. Un sondage réalisé en 2011 a révélé que 80% des Autrichiens souhaitaient que leur pays conserve sa culture chrétienne. Du reste, 78% des Autrichiens sont membres d'une église chrétienne. Les catholiques restent majoritaires et de nombreux parents sortis de l'église demandent le baptême pour leurs enfants. Enfin et surtout, on note une progression du nombre des personnes sorties de l'église qui demandent leur réintégration. Retour sur le continent africain où la forte croissance de la population oblige les États à augmenter leurs investissements pour garantir un meilleur accès à l'eau potable, notamment dans les villes. Sur les 5 400 milliards de mètres cubes d'eau renouvelable par an que recèle le continent, il n'en consomme que 4% pour boire, irriguer et produire de l'énergie. En conséquence, 300 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Pour inverser cette tendance, de nombreuses ONG s'impliquent sur le terrain. C'est le cas de Care France. Hervé Bonino, chargé du Sahel, nous parle de son action.
Le problème principal, ce sont les subventions, effectivement. La quantité d'infrastructures à implanter dans ces zones vulnérables, les besoins sont très très importants, effectivement. Un point d'eau, un forage, vous comptez plus ou moins 10 000 euros. Donc effectivement, ça a un coût. Ce sont des coûts qui sont parfois difficilement supportables au niveau local, au niveau communautaire. La deuxième priorité, je dirais, c'est faire en sorte qu'il y ait des capacités locales pour l'utilisation et l'entretien de ces points d'eau conformément aux infrastructures mises en place, c'est-à-dire à savoir entretenir et utiliser une pompe manuelle, par exemple.
Quelles conséquences concrètes a ce manque d'eau, cette absence d'eau pour les populations locales ?
Le premier problème auquel nous voulons répondre, ce sont avant tout des problèmes de santé. Parce que même si l'accès à l'eau est possible, on se retrouve bien souvent avec des problèmes qualitatifs. C'est-à-dire qu'il y a l'eau, mais elle n'est pas de bonne qualité. Elle n'est pas potable. Donc évidemment, on se retrouve avec des pathologies liées à l'eau, aux infections liées à l'eau qui sont importantes, avec parfois des taux de morbidité très, très importants, notamment chez les plus jeunes.
Est-ce que cela peut aussi créer des tensions intercommunautaires, ce problème d'accès à l'eau ?
Ah, effectivement. Le deuxième, je dirais, grand enjeu de l'accès à l'eau, pas seulement potable, parce que l'eau n'est pas utilisée uniquement à des fins alimentaires, mais également domestiques et agricoles. Et effectivement, l'accès à l'eau devient parfois source de tension si la couverture est insuffisante. Car France travaille dans deux pays, notamment au Niger et au Tchad, où l'objectif premier est justement d'améliorer l'accès à l'eau potable et en quantité, afin de réduire les risques de conflits, que ce soit au niveau des communautés locales, mais également liés à des flux de population. Je pense notamment aux réfugiés maliens qui sont actuellement au Niger, et je pense également aux réfugiés centrafricains qui sont dans le sud du Tchad.
Hervé Bonino, interrogé par Olivier Tosseri. Le Gabon accueille une conférence interreligieuse sur justice, paix et crédit social. Cette session internationale de formation se déroule à Port-Gentil du 8 au 16 janvier, avec la participation notamment du président du Conseil pontifical Justice et Paix. Dans son intervention, le cardinal Peter Turkson a proposé un long exposé historique sur le développement de la doctrine sociale de l'Église qui éclaire d'une lumière qui ne change pas les problèmes toujours nouveaux qui surgissent. Le représentant du Saint-Siège a rappelé que les chrétiens devaient s'engager dans l'histoire pour annoncer le salut du Christ. Nous sommes appelés au don et à la transcendance, a-t-il expliqué. Nous sommes appelés à évangéliser notre monde d'inégalité et de pauvreté. À l'ouverture des travaux, l'évêque de Port-Gentil, Mgr Mathieu Madéga, avait souligné l'importance d'un tel thème, vu le degré de pauvreté à travers le monde, notamment en Afrique. Au Vatican comme ailleurs, la saison des vœux n'est pas encore terminée et Benoît XVI a reçu ce lundi matin les agents de sécurité chargés d'assurer le respect de l'ordre public sur la place Saint-Pierre et ses alentours. Une tâche qui peut parfois se révéler ardue lors des grandes manifestations de fidèles quand des pèlerins venus du monde entier convergent vers le Vatican pour rencontrer le pape, visiter la basilique ou prier sur le tombeau de Jean-Paul II. Benoît XVI leur a exprimé son estime et sa reconnaissance en soulignant que leur travail qualifié est aussi le signe des bonnes relations qui existent entre l'Italie et le siège apostolique. Le pape souhaite que ce travail, qui n'est pas dépourvu de risques et de sacrifices, soit toujours animé par une foi chrétienne solide. L'ordre et la tranquillité, tels qu'ils nous sont enseignés par l'Évangile, sont essentiels pour construire une société pacifique et authentiquement civilisée. Ces agents interviennent également lors des déplacements du pape à Rome et sur le territoire italien. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook.